RCF.
Bonjour, nous retrouvons M. Jean-Marie Romet, président de l'association Les Amis du patrimoine de l'armement de Bourges, dans le cadre de nos émissions consacrées à l'histoire militaire du Cher et du Berry avec Agora Défense. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour Monsieur Dupérat.
Alors nous allons consacrer cette émission à l'industrie d'armement à Bourges, après 14-18, jusqu'à la fin des années 1940. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Romet, quelles sont les conséquences des années de guerre 14-15, 16-17-18 pour les usines d'armement et la ville de Bourges?
Alors on va reprendre un petit peu l'histoire, reparler très rapidement de ce qui s'est passé pendant la guerre 14-18, parce que c'est quand même important. Pour voir la progression de l'effectif dans ces établissements d'armement. En 1913 et jusqu'au 1er août 14, donc un petit peu avant la guerre, juste avant la guerre, il y a 3200 employés répartis entre la Pyro, l'atelier de construction et l'entrepôt de réserve générale, c'est-à-dire toute la partie qui est basse, je dirais, par rapport au champ de tir. À partir du début de la guerre, l'augmentation d'effectifs est très importante. Je cite un commentaire de l'époque. La ville prend l'allure d'une ruche frémissante avec ses baraquements militaires dressés un peu partout, ses hôpitaux auxiliaires disséminés dans toute la ville, ses écoles agglutinées et compressées pour libérer les locaux nécessaires à l'autorité militaire. Fin de citation. Pendant cette période 14-18, l'école centrale de Pyro passe de 20 hectares à 300 hectares. L'atelier de construction passe de 7 hectares à 43 hectares. Vous voyez le développement que ça peut avoir.
C'est énorme.
En 1917, l'ensemble des établissements militaires de Bourges, là je parle de l'ECP, de l'ABS et de l'ETBS, qui s'appelait à l'époque l'EETBS, mais bon, employait 25 000 personnes. 25 000 personnes. La population totale de la ville passe de 45 000 à 100 000 habitants. Bien sûr, il y a des problèmes d'approvisionnement et on est obligé de créer un office départemental et un office municipal de ravitaillement. Donc une inflation de personnes faramineuses. Au premier semestre 1917, c'est l'apogée du rendement industriel de Bourges, avec l'activité maximale à l'atelier de construction. Le travail est continu, par équipe, 10 heures de travail par équipe. Tous les établissements militaires, alors c'est une toute première dans l'histoire, dans tous les établissements militaires à l'époque, pour un travail identique, effectué dans les mêmes conditions, hommes et femmes avaient le même salaire.
Ah,
on n'en est peut-être plus là maintenant. En juillet 1918, les effectifs se stabilisent. On n'est pas encore à la fin de la guerre. Hein, là. Le 30 octobre 1918, juste avant l'armistice, on dénombre 21 000 employés aux établissements militaires, donc 12 500 à l'ECP, 8 400 à l'ABS et 4 000 à l'EETBS. Et 4 000 encore personnes là-bas, au bout du champ de tir là-bas. Et le champ de tir fait déjà 30 km de long. On est parti avant 14, oui. Le chantier faisait 2 km au départ, puis 4 km. Au fur et à mesure que les portées des armes augmentaient, on augmentait la dimension du chantier. On achetait du terrain et on augmentait la dimension. Et là, donc en 1918, on est à 30 km, c'est-à-dire très très proche de ce qu'il est encore aujourd'hui.
D'accord. Alors justement, l'industrie d'armement à Bourges, entre les deux guerres, connaît-elle un rythme aussi intense que pendant la Première Guerre mondiale?
Alors on comprend bien qu'après la cessation des hostilités, il a fallu réduire la production et donc aussi le personnel employé aux établissements. Mais l'activité est quand même restée à un niveau élevé. Il fallait reconstituer l'équipement de l'armée.
Ah oui.
Une partie du savoir-faire technique industriel est utilisée à des fins civiles. Alors on va voir quelques petites images. On fabrique par exemple des chariots betteraviers. Des éléments de moteur pour la société La Française de Vierzon.
Ah bon ?
Des éléments de locomotive pour la société Schneider. Donc on se diversifie, quoi. Tout ceci avant de connaître à nouveau une période de mobilisation totale à l'approche du deuxième conflit mondial. Les conflits, c'est bien connu, activent la créativité humaine. Et avec les enseignements de la guerre, de nouveaux matériels ont vu le jour. En particulier, de nombreux canons dérivés du 75-97. Et ces canons seront utilisés jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. De 1918 à 1939, entre autres produits, on étudie et on fabrique le canon de 75 biflèche et triflèche. Alors, peut-être quelques mots d'explication sur cette notion de flèche.
Ouais.
La flèche est la structure de l'affût qui relie le train roulant et qui permet de se déplacer, et la bêche d'ancrage qui mobilise l'ensemble du canon au sol. Donc, quand on dit biflèche, ça veut dire deux flèches, triflèches, trois flèches. Le 75-97 possède, comme tous ses prédécesseurs, une seule flèche.
Oui.
Ce qui oblige, quand on veut changer de direction de tir, à faire tourner l'affût complet. Un affût équipé de deux flèches articulées permet au canon de disposer d'un secteur horizontal de tir de quelques dizaines de degrés sans avoir à faire tourner l'affût. La plupart des canons d'artillerie sont maintenant biflèches. Oui. Le fait de concevoir un affût triflèche avait pour objectif de permettre le tir dans toutes les directions, sur 360 degrés. Ce qui est intéressant dans un emploi antiaérien, mais dont l'intérêt est discutable en utilisation classique terrestre. De fait, en utilisation terrestre, on sait où est l'ennemi. On peut se diriger vers dans cette direction-là. D'ailleurs, plusieurs dérivés du 75-97 ont été développés entre les deux guerres pour la défense antiaérienne. L'ABS a aussi développé des canons pour chars et casemates en calibre 75, toujours calibre 75, mais aussi en calibre 135. Ils seront tous construits en série, à l'exception du 75 triflèche, dont la conception novatrice n'a permis la mise au point qu'en 1940. Encore aujourd'hui, la mise en œuvre de cet affût représente un tour de force intellectuelle. D'autres prototypes ont aussi été étudiés pour l'artillerie de montagne, l'artillerie lourde sur voie ferrée. En 39, et jusqu'en juin 40, il y avait encore 4600 personnes à l'ABS et il se fabriquait encore 300 bouches à feu de 75-97 par mois.
C'est énorme.
Hein, ça restait quand même une activité très soutenue. Hein.
Oui.
Pendant l'entre-deux-guerres, l'activité de l'ECP, là on a parlé de l'ABS, on va parler de l'ECP aussi, reste très soutenue et tout particulièrement à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale. Entre 1939 et 1940, la production monte progressivement en puissance. Le personnel de l'ECP passe de 3200 personnes à 10 300 personnes.
Énorme.
Au mois de mai 40, on produit par exemple 800 000 fusées et 1 million d'obus chargés en un mois.
En un mois.
En 1940, l'atelier de décolletage de l'ECP, qui utilise 300 personnes pour ce seul atelier, est le plus important de France. On est à la guerre, là. On est à 1940.
Comme nous savons malheureusement, la France est défaite en 1940. Alors la question que je me pose, que devient l'industrie d'armement de Bourges ? Fabrique-t-on pour l'occupant ?
Alors, les productions sont interrompues à l'arrivée des troupes allemandes, le 21 juin 1940. Le personnel est replié à Châteauroux, en zone libre. Un ordre de destruction avait été donné, mais immédiatement suivi d'un contre-ordre de maintien, ce qui fait que les installations étaient intactes à l'arrivée des troupes allemandes. Tout ce qui pouvait être récupéré, parc machines, dans les bâtiments, les matériaux, tout cela a été démonté, transporté en Allemagne pendant la période 40-44. Il n'y a donc plus aucune activité industrielle pendant l'occupation. Cependant, des structures clandestines, il y a des hommes aussi, sont mises sur pied. Elles seront en relation avec des entreprises privées de la zone libre. À l'ETBS, son personnel a été transféré à Figeac, dans le Lot, en juin 40, en emportant tout ce qu'il était possible d'emporter, matériel léger, instruments de mesure. À partir de 42, les Allemands reprennent l'utilisation du champ de tir, en particulier pour des recettes de munitions. Et quelques anciens d'établissements observent discrètement ce qui s'y passe. Ils ne pourront malheureusement pas empêcher certaines exactions de l'occupant, comme le massacre des 36 personnes jetées vivantes dans les puits de Guéry, épisode bien connu dans la région et qui est commémoré tous les ans.
Tous les ans,
et
qui était commémoré hier.
Le week-end, ce week-end dernier. Oui. Avant de se replier en septembre 1944, les Allemands détruisent systématiquement tout ce qui peut être détruit. Tous les bâtiments de l'ETBS, de l'ECP et de l'ABS sont totalement détruits.
Alors justement, après 1945, comment se réorganise l'industrie d'armement de Bourges ?
Alors après la guerre, avec de gros efforts et la reconstruction des infrastructures, tout redémarre. Production, augmentation des effectifs. Au 1er septembre 1944, il n'y avait à l'ABS que 96 personnes. Trois mois plus tard, le 1er décembre, ils étaient 575. Tout ça grâce au retour en particulier des prisonniers.
Oui.
Les locaux détruits sont reconstitués et de nombreuses installations nouvelles sont aménagées. Une partie des machines qui avaient été saisies par les Allemands sera rapatriée après la fin de la guerre. En 1945, après 4 années d'abandon, les activités pyrotechniques reprennent à l'ECP. L'effectif après la libération de Bourges passe progressivement de 170 à 1300 personnes. Ah oui. L'effort principal porte sur les études, l'amorçage, allumage, fusée, artifice, explosif, technique de chargement. Les commandes civiles, là aussi des commandes civiles heureusement, contribuent à relancer l'activité jusqu'en 1952. À l'ABS, entre l'armistice de mai 45 et l'année 1951, on fabrique, comme après 1918, divers objets à vocation civile, comme des éléments de machine à coudre, des pompes à huile, des vérins hydrauliques, des compresseurs frigorifiques, des lits et des bureaux en bois. Les fabrications militaires vont reprendre avec les conflits indochinois et algériens. La reprise de l'activité armement à l'ABS n'est vraiment effective qu'en 1950, lorsque l'établissement se voit confier la réparation des chars, puis l'étude et la fabrication du canon de 75-50 du char AMX-13. Oui. Et les obusiers d'artillerie de 105-50, obusiers biflèche, tracté biflèche et automoteur. L'ECP et l'ABS fusionnent en 1967 pour devenir l'EFAB, établissement d'études et de fabrication d'armement de Bourges, qui sera intégré au groupement industriel des armements terrestres, le GIAT, en 1971. Le GIAT est alors un organisme du ministère de la Défense. Oui. L'évolution des techniques nécessite des personnels de plus en plus qualifiés. Les écoles d'apprentissage de l'ABS, de l'ECP puis de l'EFAB forment dans les métiers de la pyrotechnie et de l'usinage des matériaux des ouvriers hautement qualifiés, appréciés dans toutes les entreprises de la région. La promotion sociale est assurée grâce à des cours de formation générale et technique. Après concours à l'issue de leur cursus, les ouvriers peuvent accéder à des formations de techniciens et même d'ingénieurs. Ces formations sont dispensées dans des écoles d'alarmement comme celle de Saint-Étienne et Arcueil. Plus tard, en 1990, le GIAT sera transformé en société nationale, deviendra GIAT Industrie, puis Nexter en 2006. L'établissement de Bourges est le seul fabricant français d'armes de moyens et gros calibres et de systèmes d'artillerie. Et celui de La Chapelle, issu de la fusion entre les équipes munitionnaires de Bourges et celles des anciens établissements Luchère, est le fournisseur attitré de munitions de moyens et gros calibres de l'armée française. Parallèlement à l'ETBS, on a repris l'activité et ça poursuit, le développement se poursuit, et en particulier son adaptation aux techniques modernes, le tir de missiles en particulier, sur un champ de tir de mieux en mieux équipé. L'ETBS, aujourd'hui DGA Technique Terrestre, est devenu l'établissement de référence français dans le domaine des essais d'armement terrestre.
Ah, très bien. Alors, Monsieur le Président, merci beaucoup pour ces explications passionnantes, détaillées, pointues, synthétiques. Je me permets, Monsieur le Président, de vous souhaiter une bonne poursuite de la réflexion et de l'action aussi pour la création d'un musée de l'armement digne de notre histoire berruyère, mais aussi nationale. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à l'histoire militaire du Cher et du Berry dans le cadre de l'émission Le Berry se raconte. Merci.